femmes plurielles. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, à propos de Pessah. Avec Chaim Ben Dao, rabbin du 14e. Et bien voilà, chers amis, ce soir j'ai décidé d'inviter un rabbin particulier. D'abord, c'est un ami, mais c'est pas seulement pour ça. C'est parce que c'est vraiment un rabbin très particulier par ses approches, ses engagements et ses actions. C'est très important. Alors, au lieu de faire une grande introduction, je vais déjà vous le présenter. Chaim Ben Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à Marie aussi. Bonsoir Marie. Alors, Chaim, tu es le rabbin du 14e, donc des quartiers nord, hein, c'est ça qu'on peut dire. Oui, d'accord. Oui. Tu as 43 ans. Tout à l'heure, j'ai dit 44, hors antenne, et tu m'as dit... Tu me fais vieillir.
Non, 43.
43, oui, puisque tu es né en 1972 à Rosny, c'est ça, hein ?
Rosny-sous-Bois, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Tu as fait tes études à la yeshiva de Brunois, hein, voilà, pendant 5 ans, de 12 à 17 ans, c'est ça ? Et puis, tu as fait. Tu avais, dès le début, un penchant pour le social. Et je crois que ce penchant s'est petit à petit affirmé. Et je crois que l'aspect social, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et qu'en penses-tu de cet aspect social du rabbin qu'on ne retrouve pas chez tous les rabbins ? Faut bien le dire.
Ah bon, je suis étonné.
Ah, tu fais l'ironie en plus. Est-ce que ça te paraît une composante importante du rabbin ?
Ouais, je pense que la dimension sociale, ouais, je pense qu'à notre époque, elle est importante. On n'a pas le choix de. Ouais, je pense qu'on est obligé de. Après, c'est vrai qu'il y a des manières. Après, je pense que c'est le quartier dans lequel je suis tombé qui m'a obligé à revoir toutes mes positions sur l'approche du judaïsme.
Oui.
Ça veut dire que dans le 14e, poser un livre et étudier avec les gens et donner un cours, ça demande beaucoup d'années de travail. Au préalable, il faut que la personne, on va dire, au niveau financier, elle soit stable. Mmh. Elle n'ait pas de soucis, enfin, dans son quotidien.
Oui.
Donc il a fallu du temps, oui, avant d'installer ce système de cours au sein du quartier. Donc ça m'a plongé directement dans la dynamique du social. Bon, à part ça, formation Lubavitch depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Mm-hmm.
Tu as fait une formation Lubavitch avec un rabbin très particulier, qui est le rabbin Raskin
du Canada, exactement. Ouais. Ouais.
Et tu m'as dit que tu as été très marqué.
Oui, un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Ouais, mais le fait de porte à porte, et aller voir les gens, écouter leurs problèmes...
Alors, tu as passé ta smicha en 1991, tu avais 19 ans.
C'est ça, j'étais jeune.
Hein. Oui, tu étais très jeune. Hein. Ouais. Pour un rabbin, c'est jeune, bien sûr. Et puis après, donc, tu es parti.
Rabbin, c'est un grand mot, rabbin. Ouais. Oh là là, un rabbin. Je ne sais même pas si à la fin de sa vie, on est rabbin. Je ne sais même pas.
Ah, si tu me dis ça, je vais te demander ce que c'est qu'un rabbin. Et puis, on va partir
rabbin,
dans des discussions.
Oui, c'est vrai, c'est une longue discussion. Oui. Alors, je pense qu'on met une pierre à l'édifice. Ouais. Oui, on aide les gens. On s'entraide, oui. Ouais. Il n'y a pas de vrai rabbin, il n'y a pas de vrai fidèle. On est tous pareils en vrai. Non, c'est pas bien comme ça, c'est pas mieux.
Oui.
Bon, c'est vrai que la hiérarchie, c'est important. Les gens aiment être dans des cases avec des noms et tout. Ça, dans le 14e, on n'a pas trop besoin. Moi, les gens m'appellent Chaim, ils ne m'appellent pas rabbin.
Oui. On ne dit pas monsieur rabbin.
Bon, j'ai eu ma période de recherche où j'avais besoin d'avoir le titre. avec tout le cinéma qui allait avec. Bon, finalement, ça va, ça m'a passé. Bon.
Ça t'a passé. Oui. T'en as plus besoin, on va dire.
Non, j'en ai plus besoin, non. Voilà. Non. À une époque, j'étais persuadé que c'est les gens qui faisaient la personne. Mmh. Alors maintenant, je me rends compte que non, il y a des gens bien qui sont pas trop suivis, il y a des gens qui sont pas bien du tout, qui sont très suivis. Mmh. Voilà. Donc le titre, c'est pas grave.
Alors, tu es marié.
Oui, ça arrive.
C'est bien.
31 janvier 1996. Ouais, une date que j'oublierai jamais.
Ah ben, vraiment. Et puis des enfants, tu en as quelques-uns aussi.
Ouais, j'en ai...
Oh, il les compte.
TTC, 7.
7.
Ouais.
Ah bon. De quel âge à quel âge?
J'ai de 18 ans et demi, la plus grande. Ouais. Et la dernière, elle est née le 1er août. C'était un samedi, on dirait qu'elle avait fait exprès. Mmh. Samedi, bon, on n'avait pas pu calculer, donc on a fait ce qu'il fallait faire. Donc elle a 8 mois, je pense.
Eh ben, dis donc.
Ah, quand on aime, on compte plus.
Bravo, c'est bien, t'as bien travaillé.
Ah, c'est ma femme, c'est ma femme.
Ah bon. C'est fini ou il y en aura d'autres?
Je ne sais pas, on est en pleine négociation là. Ouais. Ça se négocie. Ça.
Bon.
Alors, c'est bien, une grande famille, c'est bien.
Oui.
Mais je suis content de l'avoir fait. Quand j'étais jeune et insouciant. Je crois qu'avec l'âge, il y a des...
Est-ce que je dois conclure que tu es vieux et très soucieux ?
J'ai pris de l'âge et je suis très soucieux. Je me rends compte qu'il y a des arbres à faire pousser, à arroser tous les jours et à couper les mauvaises branches, et à replanter. Ouais, c'est pas évident, les enfants, c'est pas facile.
C'est pas facile, mais
alors,
c'est...
Et en plus, on est plein d'assurance qu'on a des enfants et puis finalement, avec le temps, on se rend compte que les problématiques qu'il y a à l'extérieur, on peut avoir les mêmes chez nous. Puis finalement, le fait d'avoir fait du social en extérieur nous permet de mieux comprendre ses enfants.
Tu dis que tu as fait du social à l'extérieur et tu as commencé à faire du social très jeune, puisque après donc ta smicha, tu es parti voyager et dans différents pays. Et là, tu as fait des associations où tu avais des délinquants avec qui tu travaillais.
Tout à fait. Ben d'ailleurs, j'étais avec le rabbin Tobet Blatt du 12e arrondissement. On a beaucoup travaillé ensemble. Au Canada, on était ensemble.
Oui, ah oui.
On avait monté une yeshiva pendant un an et on avait pas mal de petits délinquants qui avaient quand même touché un niveau assez élevé
assez
dans
grave.
La délinquance.
Ah oui. Mmh.
Voilà. Et à un certain moment, ils se sont retrouvés dans le judaïsme. Après, plusieurs formes de judaïsme. Mmh.
Alors tu parles justement d'actions que tu avais faites là. Moi, ça m'amène à te poser une question. Tu es le rabbin du 14e, donc bien sûr, pour tout ce qui est les offices, etc. Mais est-ce que justement par rapport à cet aspect social que tu développes beaucoup chez toi, est-ce que tu fais d'autres choses?
Alors déjà, je pense, ce qui est important, à mon humble avis, c'est que même un rabbin qui rentre le matin à 6h ou à 6h30 du matin et qui dirige son minyan, je pense que même là, il y a une préparation à faire. Mmh. Il y a des écrits à poser, il y a des vraies réflexions à avoir entre celui qui ne sait pas lire, celui qui vient parce qu'il a un problème, celui qui trouve la prière est longue. Je pense qu'il n'y a pas assez de questionnement déjà sur ce problème-là. Mmh. C'est mon avis personnel, hein. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup à la synagogue Ol Yaakov.
Oui. Quand voilà, tu dis on travaille, ça veut dire avec les gens du Kahal.
C'est important. Moi, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire de la Torah. D'ailleurs, je me suis posé la question pendant des années. On l'a développé au sein de la communauté Ol Yaakov. C'est la paracha des 10 commandements dans la Torah s'appelle Yitro.
Oui.
Bon, on peut pas dire que le juif et le judaïsme n'est pas ouvert d'esprit, parce que pour appeler une paracha où on parle des 10 commandements avec le nom d'Yitro, qui était censé être quand même celui qui avait pratiqué toutes les idoles de l'époque, et qui selon certains avis s'est converti, selon d'autres non. Donc, finalement, on aurait pu l'appeler Moshe ou bien la paracha des 10 commandements, mais Yitro, c'est un homme extraordinaire, parce que Yitro vient voir Moshe quand Moshe commence à donner la Torah, à la transmettre au peuple, et lui dit « Mais toi, tu es assis toute la journée, les gens sont debout, ils n'en peuvent plus. Il faut que tu délègues, il faut que tu crées des mini-tribunaux qui transmettent la Torah. Et les questions importantes, on te les laisse à toi. Un rabbin, il ne peut pas travailler seul. Hein. »
Oui,
voilà.
C'est sûr.
Il faut arrêter de penser qu'un rabbin, il a la science. Et puis, je vais vous dire, je pense que normalement, un rabbin, il faut qu'il s'entoure de ceux qui pensent comme lui, mais surtout de ceux qui pensent le contraire de lui.
Ah bon, voilà, très bien. Je te reconnais
c'est ce
là.
C'est ce qui va permettre de créer un équilibre bien. Mmh. Voilà.
Alors, dis-moi, dans ta synagogue, je sais qu'il y a pas mal de jeunes et tu essayes d'en attirer beaucoup. Oui. Que recherchent les jeunes aujourd'hui ? Aujourd'hui, je parle à la synagogue. Qu'est-ce qu'ils attendent ?
La vérité, les jeunes que moi je connais dans mon quartier, on vit dans un monde d'agressivité, on vit dans un monde où il y a un mal-être pas possible, où les informations au quotidien qu'on reçoit par la télé, par la radio, nous angoissent. Les gens, quand ils rentrent dans une synagogue, ils ont besoin d'avoir un lieu où on les apaise. On en parle normalement. Et surtout, le sourire, c'est important. Un rabbin souriant, c'est très important.
Mmh. Voilà. Et puis
et
aussi...
Donc, surtout, il n'y a pas d'obligation de faire. On propose. Et les gens disposent. Voilà. De toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, les générations ont changé. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, il y a des jeunes qui ne savent pas lire, qui viennent, qui discutent. Et ma réaction pendant la prière, ce n'est pas de taper pour faire le silence, ce n'est pas de crier chute, c'est de me retourner avec un élan de blague en disant « Parlez, on a le droit, mais parlez doucement, pas plus fort que le rabbin. » On me dira que normalement, ce n'est pas bien, il ne faut pas parler dans une synagogue. Alors, j'ai une deuxième solution. Messieurs, prenez vos affaires, puis allez-vous-en.
Ah bon?
Voilà, au moins les synagogues sont vides et tout le monde est content. Voilà.
Ouais, bon, c'est pas la
choisi,
bonne.
J'ai pas choisi cette solution. Peut-être que dans d'autres quartiers, on a le choix, mais moi, je le choisis pas.
Alors, tu m'avais dit aussi que pour des jeunes, l'important, c'est l'exemple. Ils observent
très
beaucoup
important.
Le rabbin.
Ouais, ouais, très important. Bon, des fois, j'ai pas mal de mauvais exemples, hein. Surtout au moment de l'apéritif.
Ah bon?
Ouais, j'ai un coup de fourchette assez intéressant. Mais bon, ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut être une valeur d'exemple. C'est important d'être intègre. C'est-à-dire, je l'ai beaucoup, moi, vu dans mon adolescence et même en grandissant. J'ai assisté à des endroits dans des synagogues où le rabbin, il sélectionnait la poignée de main, où il sélectionnait les gens qui devaient être devant, les gens qui devaient être derrière, les gens qui étaient intéressants. Les
à
gens
ce
qui
point-là
étaient... ouais, ouais. Mais ça arrive partout, hein, faut pas croire.
Ah bon?
Le défaut du rabbin de nos jours, c'est que c'est devenu un commercial de la Torah. C'est un peu dommage, mais j'ai failli passer par là. Certainement, il faut dire stop. On se cherche les honneurs, on se cherche l'estrade la plus grande, on se cherche où on va se mettre pour être pris dans la photo. Enfin, c'est tout un
c'est
travail.
C'est vrai qu'on observe pas mal ça.
Ouais, ouais. Alors voilà, l'idée c'est que nous déjà Kippour, il y a quelque chose d'intéressant, je pense que ça se passe aussi dans les autres synagogues, c'est le fait de... Ça c'est extraordinaire, il y a des gens qui viennent chez nous à Kippour, qui viennent une fois par an, il y a des gens qui sont ainsi toute l'année, et bon on leur laisse la place. Pourtant le type il a payé, parce qu'on sait très bien que quelqu'un, quand on va lui dire une réflexion le jour de Kippour, déjà qu'il ne vient pas souvent, il ne viendra plus. Après on va parler d'assistana, mais bon, quelqu'un qui se noie, il faut bien l'assister, on ne va pas le laisser se noyer.
Dis-moi, j'ai une question importante à te poser. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit autour de nous, les agressions, les ceci, les cela, comment transmettre? Est-ce qu'on ne met pas ta parole en doute quand tu veux transmettre des éléments de valeur? Est-ce que tu as une méthode pour
ça? Non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'avec les agressions qu'on a eues en Eretz Israël, c'est abominable. Hein. Se faire poignarder sans aucune raison dans la rue pour des causes politiques, ou bien à Marseille, ce qui est arrivé deux fois à Marseille. Après, je pense que c'est un long débat qu'on a eu un jour à la synagogue. C'est un débat qui est très connu dans le monde philosophique. La notion d'inné et d'acquis.
Oui.
Il y a certains rabbins, dont moi pendant des années, qui étaient persuadés qu'il y a un antisémitisme qui naît directement avec la personne.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Bon, c'est un long débat. D'ailleurs, on a un texte dans la Torah qui est intéressant, c'est... qu'on a lu il n'y a pas longtemps avant Pourim, c'est le souvenir de ce fameux Amalek qui veut nous détruire à chaque génération. Rappelle-toi de lui, ne l'oublie pas. Bon, un jour, on fera un cours sur la répétition de la phrase. Et puis, il y a d'autres qui pensent que c'est un acquis, ça vient avec le temps. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'à un certain moment, c'est où on choisit le camp de se renfermer et puis finalement se dire on est entouré d'antisémites et puis on n'a rien à faire avec eux, on ne leur parle pas, ou bien de créer des ponts de dialogue. Et il y a une grande méconnaissance, du juif, de la culture juive, par les gens qui sont des religions qui ne sont pas israélites. Mmh. Et donc il y a un travail qui est fait dans le 14e par rapport à ça. Alors, dans le 14e, c'est marrant parce que l'église de Saint-Barthélemy ne s'entendait pas pendant des années avec les Maghrébins. Les Maghrébins ne savaient pas ce que c'était la synagogue, donc ils ne s'entendaient pas. Mais finalement, maintenant, on fait des tables de dialogue, ça se passe bien, ça se passe très bien. Mais je vais dire un truc qui va peut-être choquer à la radio, mais je m'en fous, de toute façon, ça ne me dérange pas de choquer. Le but, ce n'est pas de faire plaisir, c'est de dire la vérité. On n'arrive pas dans un tour de table à Félix Piat, comme il m'arrive souvent d'y aller, ou à Saint-Mauron, ou à Saint-Barthélemy. Il y a beaucoup de ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. En disant, voilà, on me demande exprès, la première question, c'est le conflit israélo-palestinien. On ne rentre pas dans cette dimension du conflit, dès le début, assis sur la table en disant, c'est pas une manière d'ouvrir un dialogue en disant « Vous avez totalement tort, nous avons totalement raison. Nous avons la palme d'or, vous avez la palme du terrorisme. » Si c'est vrai ou c'est faux, on s'en fout. Mais l'idée, c'est de s'installer sur la table déjà en sachant un peu baisser sa garde vers le bas, puis après pour bien remonter. Mais dès le début, créer la barrière, créer le mur en disant « Vous, vous êtes pas bon, nous, on est bon. » Ça avance pas le dialogue.
C'est sûr que ça, on n'arrive même pas à l'amorcer, le dialogue.
Oui, tout à fait. Puis en plus, il y a des gens extraordinaires. Quand il y a eu ces agressions où il y a eu des responsables communautaires qui nous ont demandé d'enlever la kippa, je pense qu'ils ont réagi comme un père qui réagit par rapport à sa famille, qu'ils ont peur de l'agression. Donc on demande à nos enfants d'enlever la kippa. Je ne critique pas la réaction du président Zviamar. Je ne suis pas là pour le critiquer, de toute façon. Mais... moi, j'ai une autre réaction des gens du bas dans le quartier, moi. Il y a des gens maghrébins qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais Chaïm, si un jour on te voit enlever la kippa, c'est la fin du monde. » Depuis quand depuis quand d'enlever notre kippa? Depuis quand tu dois enlever tes signes?
Oui, il faut quand même bien préciser une chose. C'est justement de par rapport à ton contact social, je crois que tu es très aimé de cette communauté
Oui, ça a été dur au début.
Hein, ça a été dur.
Ça a été dur, mais ça s'est fait. Oui, il y a eu des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont revenus, des gens avec qui j'ai dialogué, des gens avec qui j'ai plus dialogué avec le temps. Mm-hmm. Mais il est resté un noyau de gens. Il y a ce partage de SMS au quotidien. Moi, je reçois des SMS quand je finis ma prière à 7h15 du matin, que je vais travailler vers la Villa David. J'ai mes enfants dans la voiture, donc j'ai des témoins. J'ai un ami à moi qui s'appelle Torki, qui est un monsieur extraordinaire, qui m'envoie un SMS, je suis à la mosquée, je prie pour toi, passe une bonne journée. Ça n'a pas de prix.
Ça n'a pas de prix.
Voilà,
absolument.
Est-ce que c'est hypocrite, non?
Non,
parce que bon, il y a toujours celui qui vient d'être traqué en disant oui, mais bon. Non, c'est pas hypocrite, c'est sincère. C'est sincère. D'ailleurs, je lui ai même demandé quelque chose, mais ça c'était la surprise, je ne l'ai pas dit avant. Je lui ai dit, Torki, en tant que. C'est un homme très pratiquant en Torki. L'islam n'est pas une religion terroriste, hein. C'est important de le souligner. La religion, on en fait ce qu'on veut. Le Rabbi Lubavitch, il avait une phrase extraordinaire sur la religion. Il disait, la religion, c'est comme du feu. On peut se brûler avec très rapidement. Savoir manipuler le feu. Il est d'accord de passer à la radio ici avec moi.
Ah oui.
Ouais, de faire un débat.
Ah, peut-être qu'on peut envisager ça.
Oui, voilà. Bon, quelqu'un qui est capable de venir à la radio juive pour discuter d'islam et de judaïsme et de la bonne entente qu'il y a dans le 14e arrondissement, c'est un signe d'engagement pour moi.
Absolument, absolument. Alors, tes contacts, ils sont tellement, tellement bons, tes apports sont tellement forts que finalement, chez nous, dans notre communauté d'Allo, à la SIPA, la synagogue d'Allo, on avait décidé de se réunir un petit groupe, on est 5 ou 6, le mardi après-midi pour réfléchir sur des questions de Torah. Et puis on s'est vite aperçu qu'il nous fallait quand même un guide. Et donc, j'ai proposé, puisque je te connaissais, à mes copains, donc, de prendre contact avec toi. Mmh. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis ce temps-là, un mardi sur deux, on est avec toi et il n'y a pas un seul qui manque le cours. Ça veut dire que ce qu'on aime bien chez toi, c'est ta façon assez logique, assez carrée aussi, de nous exposer les choses, tout en restant quand même dans les principes de la halakha, mais sans raconter d'histoire. Et ça, vraiment, on aime beaucoup.
Oui.
Voilà.
Bon, à cause de toi, je suis assis le mardi aussi.
Hein. Désolé, mais tu me dis... Ben, c'est bien, on va le faire plusieurs fois.
J'aimerais bien jouer à avoir le temps de faire la sieste.
Bon. Je voulais juste ouvrir une parenthèse pour dire que si des auditeurs veulent nous appeler pour te poser une question, Raïm, ils le peuvent, hein, 04 91 37 78 78.
Pas changé le numéro.
Et voilà, on n'a pas changé. Et puis tu leur répondras, voilà. De toute façon, tu réponds toujours. Même quand tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas, mais tu réponds. Voilà. En venant justement à ta synagogue, puisque c'est là qu'ont lieu les cours, on s'est aperçu d'un grand changement dans votre synagogue.
Oui,
alors dis-nous, explique-nous.
Ben ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je disais ça Shabbat, je parlais avec les gens de la synagogue, parce que les gens de la synagogue, c'est pas des fidèles pour moi. C'est mes amis, c'est ma famille. Comme elle a dit la journaliste dans un article, c'est mon ADN. Les gens de la synagogue, c'est mon ADN. Ben, c'est des gens que je connais par cœur, qui me connaissent par cœur. Et puis c'est des gens... le 14e, il faudrait venir de temps en temps. C'est des gens purs, directs et sincères dans leur pratique, avec le peu qu'ils ont. J'ai commencé une très mauvaise année avec eux. Je m'investis beaucoup dans le relationnel avec les gens, etc. Et puis on a des fois des déceptions. Quoi. Dans tout ce qui est social, ça se passe comme ça. Et on a des juifs de Kippour.
Il y en a partout.
Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. Ouais, ça serait bien un jour d'expliquer pourquoi ils ne viennent pas l'année. Mais bon, ça prendrait des heures à la radio. Mais donc on a la famille Amar et on a la famille Chamla. Et puis on a Yolande Imar, voilà. Et puis on a Simon Cohen qui lui est dans le 8e arrondissement, qui vient de temps en temps, il vient à pied le Shabbat du 8e jusqu'au 14e.
Parce que c'est un Égyptien.
Voilà, voilà, exactement. C'est un Égyptien, c'est un Égyptien. Et puis il adhère totalement au travail qu'on fait au sein de cette communauté.
Oui.
Alors Gilbert Amar, il est venu, il a perdu sa maman, que Dieu repose son âme. Et puis il m'a dit j'aimerais offrir un Sefer Torah. J'ai dit Sefer Torah, on en a déjà 13. C'est bien pour une synagogue. Il m'a dit je fais quoi alors? J'ai dit tu veux pas nous refaire la synagogue? On a commencé les travaux. On a commencé les travaux dans une paracha de construction, qui est la construction du Mishkan. Mm-hmm. Et on a fini les travaux au Vayakel Pekoudé. Fin de la construction du Mishkan.
Bravo.
Une synagogue magnifique.
Oui,
apaisante. Mm-hmm. Très apaisante au niveau des couleurs qui ont été choisies. Et puis c'est magnifique, je veux dire. On est en train de parler des quartiers nord, du 14e, du fait que dans des synagogues, il manque minyan. Et puis là, on a carrément une synagogue dans le 14e qui se refait à neuf.
Mm-hmm.
Alors c'est extraordinaire.
Tellement à neuf que sur les murs, j'ai vu des choses intéressantes.
Ah, oui. On a fait un choix. On devait mettre des choses sur les murs, on voulait mettre des textes. Le kaddish, le modim, parce qu'on a l'habitude, les fidèles, ils ont besoin au moment de la prière. Mais on a préféré. On a un président qui est peintre. Travaille pas au noir, hein. Travaille bénévole. Il nous a fait. On lui a commandé des tableaux.
Il faut dire son nom, c'est David Chamla.
J'avais peur, avec les impôts, tout ça. Oui, c'est David Chamla. C'est le président d'ailleurs de la synagogue qui a repris le flambeau de son papa, qui a des fois du mal à le supporter. C'est un flambeau angoissant, quoi, je veux dire.
Oui.
Et donc, voilà, on a fait 5 tableaux qu'on a disposés dans la synagogue. On n'est pas tunisien, on est égyptien. Mmh. On a fait 5 tableaux qu'on a disposés dans la synagogue. On a tenu à mettre des phrases sur lesquelles on pourrait faire des heures de cours.
Mmh.
Alors, la première qu'on a mis, c'est « Sayag la chokhma shtika ».« Sayag la chokhma shtika », c'est-à-dire que sur le long terme, un homme sage il sait se taire quand il faut. Des fois, le silence est la meilleure réponse. C'est pas ce qu'on est en train de faire ce soir du tout. Mmh. Après, il y avait une autre phrase qu'on a mise, c'était du Pirkei Avot. C'était aussi un homme riche se contente de ce qu'il a. Ça, c'est un long débat. Donc, un jeune, vous lui dites, tu te contentes de ce que tu as. Il te dit, dans la vie, il faut évoluer, il faut manger le monde, il faut réussir. Donc, c'est des tableaux qui... En plus, il y a le point d'interrogation sur les tableaux. On a bien le questionnement. Mmh. Voilà. Après, il y a une phrase qui est magnifique. Ça, elle n'est pas de la Torah, mais elle est d'un grand philosophe israélien qui dit, quand tu as réussi socialement et que tu regardes les gens d'en bas avec ton air hautain, ce n'est que pour les aider, pour tendre la main. Il y a des gens, des fois, qui réussissent socialement, mais qui oublient d'où ils viennent. Et ça, c'est dommage, quoi.
C'est dommage.
Parce qu'aujourd'hui, on est en haut, demain, on peut retomber en bas. Et puis, est-ce qu'on n'est pas en haut simplement pour pouvoir aider les gens d'en bas ?
Enfin, bonne voilà. Question.
Voilà. Après, on a une autre phrase, c'est « Eze uchacham alomed mikol adam ». L'homme intelligent, c'est celui qui apprend de tout le monde. Tout le monde nous rencontre dans la vie, ils ne sont pas par hasard... Voilà, tous les mots qu'on entend ne sont pas par hasard. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et puis, on se forme avec les gens qu'on a autour de nous.
Oui.
Bon, ça, c'est le principe de l'anti-avodazara, de l'anti-idolâtrie. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir la vérité et qui ne veulent même pas écouter ce que l'autre dit. C'est une maladie grave.
Oui, c'est grave.
Elle se propage beaucoup, des fois. Et puis après, on a décidé de mettre un tableau chez les femmes. Pas parce qu'on ne devait pas en mettre, hein, mais on choisissait la phrase... Et donc, on a choisi la phrase « Shma beni musar avicha ve'al titosh torat imecha ». Ça veut dire « Écoute, mon fils, la morale de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère.
Mm-hmm. »
Et c'est intéressant parce que la notion de Torah et la notion de femme est compliquée dans le judaïsme. Normalement, on aurait dû dire « N'abandonne pas la Torah de ton père et laisse pas tomber la morale de ta mère. » Alors, on a mis la morale chez le père et la Torah chez la mère.
Pourquoi ?
Ouais, c'est cette idée de Torah, il y a la Torah des livres et puis il y a la Torah de la transmission de la maman, il y a son exemple, sa vie, son vécu, ses anecdotes, ses histoires, voilà.
C'est une incitation à la réflexion, ça.
Oui, tout à fait, c'est fait pour.
Mm-hmm. Ouais, et alors, je dois dire une chose, c'est bravo à David Chamla, parce qu'il a fait de la calligraphie comme un artiste, c'est un artiste,
oui,
d'ailleurs.
C'est tout en hébreu, c'est des lettres hébraïques, quoi.
Bravo. Bon, écoute,
peut-être qu'un jour, il mettra le chapeau, la barbe, et qu'on le retrouvera à Jérusalem, mais je pense pas.
Je crois pas non plus. David, si tu nous écoutes, hein, dis-nous. Hein. Bon, alors, écoute, on a dit que ce soir, on allait parler de Pessah. On a déjà une demi-heure qui est passée. Il faudra peut-être quand même qu'on parle de Pessah. Alors, quand on parle de Pessah, il est courant de dire que c'est un élément fondateur du peuple juif et un préalable important à la réception de la Torah. J'aimerais que tu nous en dises deux mots.
Ouais, Pessah, c'est une notion intéressante. C'est l'idée de l'engagement du peuple juif. Hein, certainement, en Égypte, c'est sa naissance. D'ailleurs, ce n'est pas encore le peuple juif. C'est un peuple qui commence à développer l'idée du monothéisme.
Mmh.
Voilà, et qui décide de mettre le sang sur le linteau des portes, qu'on appellera Mezouza, qui plus tard nous emmènera à la pratique de poser une Mezouza.
Mmh.
Puis, donc, il y a eu le sang de la circoncision et le sang du sacrifice de l'agneau, qui à l'époque, l'agneau était l'animal sacré des Égyptiens. Donc c'est vraiment la cassure entre l'idolâtrie et le développement du monothéisme. Et cette idée de la Brit Mila aussi, qu'on a du mal à comprendre encore jusqu'à maintenant, ce besoin que Dieu a... Cette envie, ce besoin que Dieu veut à tout prix qu'on soit marqué dans la
c'est
chair.
C'est l'alliance, voilà.
Voilà
pour on dit ça.
Voilà. En plus, c'est un endroit assez sensible. Mmh, voilà.
Mmh.
Ben, on en parlait d'ailleurs. On parlait dans la paracha Tazria, Metzora, c'est des parachutes qu'on a passées il n'y a pas longtemps, parce que là maintenant on est dans Haremot. C'est cette idée de la shonara qui peut se faire avec la langue.
Mmh.
Voilà, bon, on va. On va même pas développer
c'est
le sujet.
Un gros développement, ah ouais, ça, on va non, pas voilà, le faire maintenant.
Il y a cette idée aussi de Brit Mila qu'on a parlé à l'intérieur du cours.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est un engagement important de se faire marquer dans la chair. Il faudrait des heures pour le développer, mais ça fait le début de la naissance du peuple juif.
Mm-hmm.
Et puis, la notion de Pessah, c'est une notion intéressante. On a choisi dans tous les noms qu'on aurait pu donner à la fête de Pessah, on a choisi le mot Pessar qui veut dire sauter, passer
au-dessus. Passer au-dessus, voilà.
Voilà,
il y a une autre explication, Pessar, la bouche qui parle.
Exactement. L'idée de transmettre, de raconter.
Oui.
Et l'idée aussi de dépasser ses limites, de sortir de ses propres barrières. Ouais.
Ah,
donc
oui.
Ça, c'est un état philosophique qu'on a développé beaucoup plus tard. Mais l'idée, ça a été aussi, l'idée importante, ça a été la notion de confiance. C'est-à-dire, je pars d'un pays où je suis un peu maltraité, entre guillemets, et je me retrouve carrément dans le désert où j'ai une totale confiance en Kadosh Baruch Hu, cette idée de foncer, de sortir, d'aller voir un peu. Et c'est le Messirut Nefesh, c'est le don de soi qui permet de recevoir la Torah.
C'est très important ce que
ouais,
tu viens de dire, le don de soi qui permet...
D'ailleurs, dans l'éducation de nos enfants, il faut le don de soi. Dans le service communautaire de tous les rabbins, il faut le don de soi.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on facile à faire, ça, le don de soi?
Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais un jour, on avait demandé au Rabbi Lubavitch, c'était quoi le don de soi? Il avait donné quelque chose de magnifique. Il avait dit, le don de soi, c'est... Après, c'est pas mon niveau. Hein. Mmh. Il avait dit, il y en a qui étudient un texte une fois, 100 fois. Et le don de soi, c'est le fait de l'enseigner 101 fois, de l'étudier 101 fois, 7 fois de plus.
Mmh.
Voilà la notion de ce qui nous permet de recevoir la Torah, les énergies positives, les brachot, les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, c'est de donner plus que d'habitude, de faire plus que d'habitude, avec les autres, avec nous-mêmes.
Alors, on a dit tout à l'heure que c'était un élément fondateur du peuple juif, et j'ai lu un rapport, et tu vas me dire ce que tu en penses, un rapport qui dit que finalement, quand on a fait une étude et on a regardé le nombre, la proportion des gens qui fréquentaient une synagogue ou qui fréquentaient une église ou qui fréquentaient une mosquée, et on a trouvé que ce nombre est entre 12 et 15% de la population de cette religion-là. Et par contre, on a fait aussi une étude sur le respect de cette fête de Pessah, et on a trouvé en Israël qu'il y a 85% des gens qui observent Pessah.
C'est ça.
Et ça, c'est quand même assez étonnant, non?
Je ne suis pas trop étonné, parce que Pessah, je veux dire, depuis petit, il y a tout ce folklore, cette positive, cette symbolique tout autour. Cette œuf posée sur le plateau qui symbolise la naissance, l'os, etc. Et il y a Kippour aussi, c'est une fête qui est très respectée. Ouais.
Mm-hmm.
Pessah, Kippour sont des fêtes très... Et puis bon, c'est vrai que c'est des fêtes, même dans l'assimilation la plus grande, je veux dire, nos parents les ont toujours faites, quoi, à leur dimension à eux.
Mm-hmm. Chacun à son niveau, chacun à son degré.
Je peux la raconter, j'ai rien à cacher. Quand j'étais petit, on faisait Pessah avec mes parents. On n'était pas du tout religieux, mais pas du tout. Quand je dis pas du tout, c'était pas du tout. C'est ce qui me permet des fois peut-être de comprendre les gens qui sont pas religieux. Vous savez, il y a pas longtemps, j'étais voir un monsieur dans le 15e arrondissement. Avant, je m'occupais pas du 15e arrondissement. Mais depuis que la communauté du 15e a fermé, donc je me suis dit autant aller voir là-bas aussi. Il y a pas mal de juifs, d'ailleurs, qui viennent maintenant dans le 14e. Ils viennent en voiture. C'est les voitures à eau. On a construit des voitures du Shabbat. Ils viennent et j'ai rencontré des gens, et il y a un vieux monsieur qui me disait, moi monsieur le rabbin, je fais le kiddush tous les shabbats, mais il m'a sorti une bouteille de vin non kasher. J'ai trouvé ça, j'ai eu de la peine, en même temps j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, après on a rétabli doucement la problématique en donnant du vin kasher, en lui expliquant, etc. Mais voilà, l'idée elle est là, voilà, l'idée elle est là.
Oui, je comprends. Alors, cette fête de Pessah, quand on l'évoque, on pense à deux mots importants, il me semble, hein, c'est transmission et liberté.
Ouais.
Alors déjà, sur la liberté, qu'est-ce que tu pourrais dire?
La liberté, ouh là là.
Ah oui, je sais.
Oulala, mais
je t'accorde pas trop de temps, 5-6 minutes, pas plus.
La liberté, on a fait 6 ans de cours à Oel Yaakov sur la liberté. On s'est disputé, je sais pas combien d'heures on a passé de cours sur la liberté, enfin sur le libre arbitre, et puis finalement on a trouvé la réponse. Finalement, il y a deux choses, il y a le libre arbitre et il y a la liberté. C'est deux choses totalement différentes. Nous avons le libre arbitre, mais nous n'avons pas la liberté.
Voilà. Peut-être la Alors, liberté l'idée, de penser.
Voilà, nous avons la liberté de penser, de croire que demain on va pouvoir faire quelque chose. Et finalement, après, la vie nous rattrape et nous montre que finalement, on n'a pas pu le faire. Mais on a le libre arbitre de penser, de pouvoir faire cette chose. Mmh. On a le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Après, on n'a pas la liberté totale de nos actes. Mmh. Voilà. Et... Alors, la liberté de Pessard, elle est intéressante. La liberté de Pessard, pour revenir au sujet quand même.
Oui.
C'est l'idée de... C'est comme l'idée du Shabbat. On en parlait d'ailleurs, on a fait un cours là-dessus, Shabbat à la synagogue. C'est l'idée de rentrer dans Pessah, comme quand on rentre dans le Shabbat et de laisser tout derrière. Il y a un Rashi qui dit quelque chose de magnifique sur Shabbat. Il dit, Shabbat, on ne te demande pas de finir tes affaires avant le vendredi soir pour être samedi tranquille. On te demande de considérer comme si tes affaires étaient finies. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les problématiques qui existent. Et la notion de Pessah, c'est la même chose. C'est pouvoir s'asseoir le soir du Seder en se sentant libre. Et il y a une idée aussi qui est intéressante, qu'on dit dans la Gada, qui n'est pas complètement bête. C'est l'idée de dire, si on n'aurait pas été délivré d'Égypte, on aurait encore été esclave. Ce n'est pas faux. Il y a des peuples jusqu'à maintenant qui vivent dans la soumission et dans l'esclavage. On a réussi à avoir une dignité, à avoir un pays. Et à avoir un peuple. Et c'est ça la force de Pessah, d'être libre.
D'être libre.
Voilà. Après, il y a une liberté qui est importante, mais ça a du mal. C'est la liberté d'expression. Et ça, Pessah, c'est vraiment la fête qui est importante. Parce que l'enfant, au quotidien, dans certaines familles qui fatiguent, ce soir, on va lui demander de poser des questions au plus petit de la famille. Et j'ai vu une vidéo sur ma page Facebook qu'un ami m'a envoyée. Elle est super cette vidéo. Le rabbi de Lubavitch, quand les gens ils passaient devant, quand ils donnaient le dollar, le rabbi disait au petit, il lui disait, tu as préparé bien les quatre questions à poser à papa? Et le petit disait oui. Et là le rabbi se tournait vers le père et lui dit, mais vous avez bien préparé les réponses. Là, parce qu'en général on a tendance à beaucoup travailler sur le questionnement de l'enfant.
Oui.
Mais on répond, ça n'a pas de rapport, le pauvre, il veut une vraie réponse. Donc voilà, c'est cette idée de la liberté d'expression qui existe sur le soir sur la table de Pessah, elle est très importante, le droit de s'exprimer. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est magnifique le soir de Pessah, c'est ce fameux bonhomme là qu'on appelle le Racha, qui est assis sur la table du Seder. Là. Celui-là, il est magnifique parce que lui dit, moi, je ne sais même pas ce que je fais là, c'est même pas mon histoire, vous m'avez fatigué. Vous savez combien j'en ai eu comme ça à la maison des Pessahs?
Oui.
Monsieur le rabbin, très vite. Moi, j'ai entendu un jour une femme, elle m'a fait une phrase magnifique. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, faites vite, demain je bosse. Voilà, je veux être là, mais faites vite. Voilà. Moi, bon, finalement, elle est restée. On a discuté parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important dans le Pessah, et ça, on l'oublie beaucoup. C'est bien de lire en hébreu tout le texte pour celui qui comprend. Mais pour celui qui ne comprend pas. Il est assis pendant 2 heures, il attend que le repas. Mais sincèrement, tu le parles en français, tu l'intéresses et tu lui montres que l'histoire qu'il y a dans le livre, c'est son histoire à lui, il peut être intéressé par l'histoire. Voilà. Ce qui est un peu dommage dans le judaïsme, c'est que ça s'est très ritualisé. On a perdu cette expression libre de pouvoir partager. Alors pour revenir au rachat, ce rachat il est intéressant parce qu'il est assis sur la table et on cite ce qu'il dit. Normalement, on ne devrait même pas le citer. On cite ce qu'il dit, parce que c'est une part importante du CDR. Mmh. Mais après, ça, chaque année, je le dis à la radio. Si je ne le dis pas à la radio, je le dis dans les cours. Le rabbi de Lubavitch, il disait, il n'y a pas 4 fils, il y en a 5. Le 5e, ce n'est pas celui qui ne pose pas de questions. C'est celui qui ne sait même plus que c'est Pessah. Celui-là, il est dehors, il est dans la rue. Il ne sait pas que c'est Pessah. Il ne sait rien, lui. Mmh. Alors, c'est lui qu'il faudrait mener à la table. Il y a la chaise d'Eliyahu HaNavi, cette chaise qu'on attend, Eliyahu HaNavi, puis il y a la chaise de ce bonhomme-là. Oui. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans Pessah, c'est les 4 langages qui citent la libération. On a été délivré, on a été arraché, on a été libéré, etc. Ceux que tu voulais parler tout à l'heure. Mm-hmm. Alors, c'est marrant parce que chaque langage, il correspond à un vers, et chaque vers correspond à un fils. Et donc, le 2e vers correspond au 2e fils. Le 2e fils, c'est le rachat.
C'est le rachat.
On va passer la majorité du céder de Pessah avant de boire le 2e vers sur le rachat. Mmh.
Et qui viennent tout de suite après le racham.
Exactement. Ouais. Bah, ils s'entraident, c'est normal. Ouais, un homme intelligent, c'est celui qui sait gérer ceux qui sont plus bas que lui. Ouais. Et donc, on va passer du temps avec ce rachat et lui expliquer que finalement, il appartient à ce judaïsme qui est intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à une époque, dans les Haggadot, j'ai une Haggadah à la maison, il y a un commentaire. Le rachat de l'époque, c'était Baruch Spinoza. Ah. On l'appelait le rachat de la Gada.
Ah bon ?
À une époque, il avait été excommunié.
Oui,
de...
ça, bien sûr, voilà. On sait.
Mmh. Bon, après, ça reste entre nous. Ça ne sortira pas des Bouches du Rhône. Mais il y a énormément...
On est entre amis, là. Hein.
Voilà, oui, il n'y a personne qui nous entend. Voilà. Il y a énormément de pensées philosophiques de Baruch Spinoza qui ont été récupérées par pas mal de penseurs.
Bien sûr, hein, c'est un grand penseur.
En expliquant que tout se passe dans la nature. D'ailleurs, il y a tout un cours du Maïmonide dessus, c'est intéressant. Voilà.
Mmh. Oui, oui.
Donc même Spinoza, il est bienvenu à la table. Mmh. On en a des Spinoza dans notre communauté qui attendent qu'on leur explique les choses.
Je ne sais pas s'il y en a tant que ça, on aimerait peut-être qu'il y en ait plus.
Ouais, et par rapport à ça, justement, pour parler du cinquième fils, il y a un boulot qu'on fait avant Pessah. D'ailleurs, je remercie le mouvement Lubavitch par rapport à ça. Le Rav Madar, le Rav Tobenblatt, qui m'ont fourni les matzot pour pouvoir les distribuer en porte-à-porte, plus les donateurs qui m'ont donné l'argent pour pouvoir donner des colis aux gens qui avaient besoin. Et comme j'expliquais aux donateurs, il y a des gens dans mon quartier qui mangent kasher 8 jours dans l'année. C'est Pessah. Mm-hmm. Les autres jours, ils ne mangent pas. Et quand vous leur portez la matzah dans la maison, ils ne peuvent pas fermer la porte. C'est une symbolique hyper importante. Puis ça nous permet de rentrer à la maison. Et puis c'est marrant parce que chaque année on découvre des nouvelles familles quoi. Oui. Des fois j'ai mon Yetzarara, vous savez, ce petit truc qui vient vous parler le matin en vous disant c'est pas à peine d'aller, c'est bon, maintenant ils viennent à la synagogue. Mais finalement j'ai... Et puis après on rentre dans des choses beaucoup plus compliquées quand on rentre dans le porte-à-porte avec les gens.
Justement, tu parles de porte-à-porte et je voudrais...
Oui. C'est une parenthèse, je suis un peu fou, excuse-moi. C'est une parenthèse qui me saute à l'esprit maintenant. J'ai mis 20 ans à El Yaakov, j'ai fait un travail sur des gens, maintenant ils sont au Minyan le matin.
Bravo.
Ouais, ça paye. Le Minyan, c'est fatigant. Hein.
Ah oui, oui.
Ouais.
Le matin, il faut se lever tôt.
Ils viennent. Oui. Ils viennent, ils participent à la prière, ils nous font le Minyan, ils mettent les tefillines. C'est des gens qui ne savent pas lire, en hébreu, ils ne savent pas lire.
Et ils viennent quand même.
Ils viennent au Minyan le matin. On a Minyan grâce à ces gens-là. Et ils ne venaient pas, avant c'était des juifs de Kippour. Et alors, Kippour, à la place de faire des discours philosophiques pendant des heures, je parlais directement avec eux comme s'il y avait qu'eux dans la salle. Où t'es dans l'année, je te vois pas. Et j'ai même dit un jour quelque chose Kippour qui a fait rire tout le monde. J'ai dit, venez dans l'année, ne venez pas Kippour parce que Kippour, on est sûr d'avoir Minyan. Voilà.
Oui. Et justement, je rapporte une question. Hein, tu parlais de tout à l'heure porter à la porte des gens. Une question que tu t'es posée. Comment faire pour qu'en 5 minutes, au pas de la porte d'un juif qui n'observe pas Pessah, comment le mettre dans l'esprit de Pessah juste avant qu'il aille voir son film à la télé? Ouais. Alors comment tu fais?
Normalement, c'est des heures de formation, ça. J'ai pas le droit de les délivrer comme ça.
Ah bon, c'est des méthodes
ouais,
spécifiques.
Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais ça, on y arrive, on pousse un peu la porte. Mais des fois, il m'est arrivé de me faire jeter, hein. Puis il m'est arrivé des choses extraordinaires. Hein. Je racontais à la communauté la semaine dernière. Là, j'ai fait du porte-à-porte. Je me suis retrouvé avec des gens qui ont changé la prononciation du nom
pour plus qu'on sache
qu'ils soient juifs. Et quand j'ai dit au monsieur en sortant de chez lui en prenant l'ascenseur, bon allez monsieur, en faisant exprès, je vous souhaite bonne fête de Pessah. Le type il me faisait chut. Il veut rester dans l'anonymat. Voilà.
Il s'est fondu, c'est l'assimilation totale.
C'est l'assimilation. Mais ce qu'il y a de bien dans les quartiers nord, c'est que les Maghrébins, ils sont extraordinaires dans les quartiers nord. Parce qu'il y a des gens au Merlan qui me disent, là-haut, au troisième, il y a un juif.
Ah bon, c'est tes indices.
C'est les petits jeunes du bloc d'en bas. Ils me disent, là-bas, il y a un juif au troisième.
Bon, c'est bien. Bon, alors dis-moi, on a dit qu'il y a beaucoup de rituels dans cette fête de Pessah.
Ouais.
Alors, je voudrais qu'on dise deux mots, parce que quand on en a parlé, tu m'as dit quelque chose d'intéressant sur la bédika, la veille.
Ouais.
On fait la bédika, c'est-à-dire la recherche du Hametz.
C'est ça.
Alors, cette recherche, c'est le chef de famille qui le fait. Une bougie allumée à la main.
Moi, c'est ma
et
femme,
il va chercher. Ah bon,
fatigué,
bon,
non,
d'accord.
Non, c'est moi qui l'a fait.
Alors, explique-nous un peu le sens de cette chose.
Je l'ai fait, puis je prie tout le long de ne pas trouver de ramet, parce que sinon, c'est.
Mais tu vas en trouver.
Oui,
il
non,
faut
en
trouver.
C'est le ramet que j'ai caché moi.
Ah voilà.
Si je trouve du ramet que je n'avais pas caché.
Ah, ça.
Il y a ma femme avec le rouleau de pâtisserie. Moi,
oui,
avec
la pauvre, elle s'est défoncée pendant un certain temps à nettoyer tout.
Ouais, mais voilà, mais après un certain moment, la bougie 4 ramets, bon, c'est très bien qu'on... D'abord, on commémore la notion de la transmission. On commémore les choses telles qu'elles sont. Le fait de prendre une bougie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière, et puis de chercher dans les coins, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Les coins étaient compliqués. Ce n'est pas les coins d'une maison maintenant qui sont bouchés. Mais on continue quand même cette symbolique de la recherche du ramets. Bah voilà, mais l'idée, c'est intéressant. Il faut tout de suite se plonger dans la Chassidoute ou dans les grands écrivains sur la fête de Pessah qui nous explique que le Hametz, c'est la notion d'orgueil, c'est ce qui gonfle, la Matzah, c'est ce qui est plat, c'est l'humilité. Et que notre travail à nous, c'est de chercher au fond de nous-mêmes qu'est-ce qui fait que de Tichri, de la fête de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah, ça n'a pas été dans le couple, ça n'a pas été dans l'éducation. Qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi qui fait encore barrage, qui fait que je ne m'entends plus comme avant, que ça ne va pas du tout, qu'il y a eu des cassures, qu'est-ce qu'il faut reconstruire ?
Tu assimiles cette recherche à la recherche des petits bouts de
oui,
pain.
C'est ça. Certainement, si le type qui pense que rechercher du Hametz dans la maison, c'est que rechercher du Hametz dans la maison, bon, c'est costaud, hein, bonne chance.
Oui.
Bon, il y a même Pessah, je suis assis à table, j'ai lu, j'ai bu, j'ai mangé. C'est réducteur de laisser la fête à ce niveau-là. Il y a aussi le fait de se chercher à l'intérieur de soi-même. Quel est mon... Oui. Bon, ça, c'est très connu. Quels sont mes mitzraïm à l'intérieur de moi ? Quelles sont mes limites, mes barrières ? Voilà, cette onde de... un jour, j'ai travaillé avec un type pendant une demi-heure à la synagogue, il rigolait. Il avait honte de dire à sa femme qu'il aimait. C'est un médecin qui est compliqué, ça.
Oui. Je vois qu'il est moins 10 et on n'a pas fait beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de sujets qu'il fallait soulever. Alors je saute un petit peu. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que les 5 céréales oui. avec lesquelles on fait, ou on ne fait pas, parce que bon, on a changé un peu les méthodes,
oui.
mais enfin, ces 5 céréales sont le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Et elles sont admises aussi pendant la période de Pessah pour faire la matzah.
Ouais, tout à fait.
Alors, on peut se poser la question, quelle différence, puisque c'est les mêmes ingrédients. Il y a ça, et puis il y a de l'eau. Alors, quelle différence y a entre l'un et l'autre ?
Bah, ça, c'est la notion du temps.
Voilà,
ouais,
c'est le temps.
C'est la notion du temps, oui. La matzah peut devenir pain si elle a dépassé 18 minutes.
18 minutes entre le moment où on fait la pâte et le moment où elle est cuite.
Bah, d'ailleurs, j'avais travaillé dans les matzot en Amérique... pour arrondir les fins de mois d'un étudiant. Ça allait très très vite, c'était très marrant. Parce que le Rav, il ne voulait même pas qu'il y ait des appareils photo à flash parce que ça faisait gonfler la matzah. Mais bon, l'idée du temps est intéressante, la notion du temps. Ouais. C'est le temps qui fait le changement des choses. Ouais. Voilà cette idée des 18 minutes. Je ne rentrerai pas dans la dynamique du mot Rav et 18 parce que si on peut faire moins, on fait beaucoup moins que 18 minutes. Mais 18 minutes reste le maximum. Mais cette notion du temps, elle est intéressante. Et on va remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que le zman en hébreu vient du mot mazon qui veut dire se nourrir. Alors chez les psychologues et les philosophes, le temps est une notion d'angoisse.
Ah bon ?
C'est une notion de mort, la notion de temps. Dans le judaïsme, c'est une notion positive, le zman.
Explique.
Oh là là, ça prendrait des heures. Mais non, mais voilà, la notion de zman, c'est une notion extraordinaire. Le temps arrange les choses. Le temps va faire passer les peines. Voilà.
Alors, j'ai lu, mais tu vas me confirmer, parce que j'ai peut-être mes connaissances ne sont pas très grandes à ce sujet-là. J'ai lu que Bereshit, c'était le début du temps cosmologique. Alors que Pessah, c'est le début du temps...
Des mois.
De l'histoire d'Israël. Est-ce que c'est ça ? Explique-nous un peu plus.
Oui, c'est l'idée de la création de l'homme et la création du temps. Ce n'est pas la même chose. À Rosh Hashanah, on célèbre l'anniversaire de... Il y a une discussion, en vrai, dans la Torah par rapport à ça. Est-ce que le monde a été créé en Tishri ou le monde a été créé en Nissan ? Donc à Rosh Hashanah ou bien à Pessah. Et on répond comme ça simplement. On dit qu'il y a une naissance à Tishri, que la naissance de l'homme et du monde, et la notion du temps réel avec un calendrier, avec des fêtes qui se sont posées, c'est venu à Pessah.
À Pessah, ouais. C'est ça. C'est le temps zéro.
Voilà, il y a une idée intéressante, c'est est-ce qu'il n'est pas bon de vivre totalement en dehors du temps, en dehors des rituels, en dehors de fêtes, en dehors de choses. Bon, on s'est rendu compte que le judaïsme, il est extraordinaire parce que chaque période, il y a une fête différente avec des symboliques de repas différents. Et c'est ce qui nous permet de vivre un judaïsme très dynamique. Non, à la maison de retraite, ils deviennent fous, les gens.
Ah oui.
Mais s'il y a tout le temps des fêtes chez vous, c'est pas possible. Sans compter le Shabbat, qui est une fête en soi-même, hein, où il y a au moins 15 salades sur la table. Et...
Oui.
Voilà. Non, voilà.
Le temps, c'est...
Le temps, c'est de l'argent. Non, c'est pas ça.
Non.
Un jour, il y avait un ami à moi, il m'a dit, le temps, c'est de l'argent. J'ai dit, toi, grâce à Dieu, tu as du temps. Non, mais c'est la notion du temps est très importante.
Oui, oui. Il y a une autre chose dont on a parlé en préparation là et qui m'a un peu étonné, c'est que quand on a une substance qui est cachère, donc on peut consommer, si une substance non cachère tombe à l'intérieur et si cette substance non cachère c'est moins de 1/60 de la substance cachère, eh bien l'ensemble est consommable. Ça reste cachère si la substance non cachère est moins de 1/60. Par contre, cette loi n'est pas valable dans pour Pessah, la fabrication de la matzah.
Même une miette de matzah pendant Pessah qui tomberait une miette de chametz qui tomberait dans une grande marmite de matzah rendrait toute la marmite chametz.
Comment on peut comprendre ça?
Je pense que les rabbanim. Donc nos référents, ils ont mis une place importante à cette idée de ne pas consommer jusqu'au point, jusqu'à la miette. Après, réellement, l'explication, je ne la connais pas.
Alors j'en ai une. Moi j'en ai une, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut.
Moi je vais finir à la radio, c'est ça l'histoire.
C'est ta faute, hein, c'est toi qui me rends rabbin. Moi j'en ai lu une, c'est que, justement, on parlait du temps.
Oui.
Et on disait que Pessah, c'est le temps zéro.
Oui.
Justement pour le
donc
peuple juif.
Miette.
Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le pain, pour faire lever du pain, on prend une pâte d'un pain antérieur qui va faire lever. Mais cette pâte d'un pain antérieur faisait partie d'un pain et donc pour le faire, on avait pris une pâte antérieure et puis on peut remonter comme ça et finalement on remonte dans le temps. Or, justement, Pessah, c'est le temps zéro. Donc on doit éliminer. Voilà, c'est elle vaut ce qu'elle vaut.
Ouais.
Mais c'est une explication que j'ai trouvée. Voilà.
Ouais,
bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore?
Après,
parce que j'ai sauté énormément de choses.
La communauté, ça c'est important, qu'il n'y ait vraiment pas de consommation de. Je ne parle pas de la possession, le fait d'avoir vu à la maison, ça c'est un autre sujet.
Oui, on dit ne pas manger, ne pas voir chez soi et ne pas trouver.
Posséder, c'est ça. Bon, au moins que la communauté fasse attention au fait de pas, au moins que la communauté fasse attention au fait de pas manger le chametz pendant Pessah et de regarder chaque chose qu'il mange à l'intérieur, il n'y a pas des dérivés de chametz aussi.
Très bien. Pour terminer, quand même, il faut juste dire une chose, c'est que à la fin de Pessah, eh bien, on chante.
Oui.
À la fin du Seder, on chante. Et on chante Ragadia, notamment. Ça compte aussi. Eh bien, Raïm, je te remercie parce qu'on fait signe qu'on arrive à la fin. Voilà, c'est passé très vite. Et on a encore beaucoup à dire, mais on va se revoir, Raïm.
Oui, oui.
Il n'y a pas de problème. Et le mardi, et puis à la radio.
Tout à fait.
Voilà, merci, chers amis. La semaine prochaine, nous parlerons du cirque et des juifs. À bientôt. Au revoir.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.